Voilà, je vais continuer une série. Je pensais faire le chemin, Jésus, le chemin, la vérité, la vie, en un seul dimanche. Et là, j'en suis au troisième dimanche. Mais je préfère que prendre le temps pour que je puisse vous donner tout ce que le Seigneur m'a mis à cœur sur ce sujet. Jésus, le chemin, la vérité, la vie. Et nous sommes actuellement sur la vérité. Jésus, la vérité. C'est la suite du dimanche précédent. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ta parole que nous voulons ouvrir ce matin pour la laisser nous instruire, nous équiper, nous édifier. Et que, Seigneur, toute gloire, toute louange te revienne à toi seul. Bénis aussi les enfants, bénis les ados et accorde-leur ta grâce, nous te prions, au nom de Jésus. Amen. Dans Jean 14, verset 6, nous avons le discours que Jésus adresse à ses disciples et qui amène l'incompréhension des apôtres, l'incompréhension de ses disciples, qui l'interrompent à plusieurs reprises. Il n'arrive pas à développer sa pensée, il l'interrompt, et d'abord Pierre, ensuite Thomas, disent, lorsque Jésus affirme que pour aller, il a dit, pour aller où je vais, vous savez le chemin. A priori, c'est une affirmation, vous savez le chemin, là où je vais. Mais Thomas dit, mais nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous en savoir le chemin ? Voyez-vous, c'est vrai que si moi je vous dis je m'en vais, suivez-moi, que vous êtes en voiture, bon, par le fait que vous pouvez coller à mon pare-choc, eh bien, c'est très difficile si je m'en vais, j'ai pas Lyon, par exemple. Et que d'un seul coup, sur une bretelle d'autoroute, vous perdez et voilà, vous allez, je sais pas, vous savez pas où je vais. Donc, vous allez à Troyes, vous allez dans une direction même opposée, vous allez à Nantes, etc. C'est pas évident quand on ne sait pas où on va, parce qu'on ne peut pas toujours suivre tout près quelqu'un. Eh bien, c'est une question qui est légitime. Comment saurions-nous où tu vas et comment saurions-nous le chemin ? Et alors là, Jésus sort cette affirmation. Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Voyez-vous, aujourd'hui, ce discours de Jésus, hein, c'est Jésus qui le dit, eh bien, ne passerait plus du tout. Ne passerait plus du tout. On dirait que Jésus est un radical. C'est vrai qu'il est radical. Parce que aujourd'hui, toute vérité, parce que là, Jésus leur dit une vérité. Vous ne savez pas ? Ben, je suis. Donc voilà, et ça veut dire quoi ? Ils vont où ? Ben, c'est Jésus, vous voyez ? Donc c'est effectivement déstabilisant, parce que ce n'est pas une réponse habituelle. Il aurait pu dire, je vais à Jérusalem, je vais à Jéricho. Je vais... Non, c'est ce qu'ils attendaient. Il a dit, je suis le chemin, je suis la vérité, la vie. C'est déstabilisant. C'est un discours qui, effectivement, pose problème. Et ce fait, en plus, aujourd'hui, on parle de la vérité, hein, j'ai parlé du chemin précédemment, je suis la vérité, eh bien, c'est totalement impossible de le dire aujourd'hui dans notre société moderne. Parce que la vérité devient subjective. Moi, je pense, je crois, je sais, j'ai la vérité, etc. Chacun a sa vérité, plutôt qu'objective. Là, c'est une réalité objective, c'est-à-dire que quelque chose qu'on croit, qu'on ne croit pas, qu'on accepte pas, c'est un objet. La vérité, c'est un objet dans la personne de Jésus, mais c'est objectif. C'est pas subjectif, c'est pas lié à moi, c'est lié à Jésus. Aujourd'hui, la vérité, quand on parle de vérité, elle devient floue. Elle devient permissive. C'est comme du sable, vous savez, le sable mouvant, vous commencez à marcher, et puis plus ça va, eh bien, si vous n'êtes pas aidé pour sortir, vous risquez de vous noyer complètement dans le sable mouvant. C'est différent du roc. Quand on est sur du roc, eh bien, du rocher, du granit, même du calcaire, vous pouvez vous en sortir. Vous avez quelque chose qui vous supporte. le monde d'aujourd'hui, dans lequel nous sommes, il est modelé par l'opinion des réseaux sociaux. Avant, c'était les journaux, les médias. Encore, bon, on adhère, on n'adhère pas. Chacun avait un peu son journal. Il y en a qui avait Paris Match, d'autres qui avaient Le Monde, Le Figaro, etc. Là, chacun a son réseau social. Chacun a son, peut avoir son Facebook ou son TikTok ou j'en sais rien, pour dire ce qu'il pense, ce qu'il croit, quelle est sa vérité. Aujourd'hui, l'autorité institutionnelle, je veux dire institutionnelle, c'est l'État, telle et telle administration, etc., il n'a plus droit à une autorité. Depuis mai 68, que j'ai connu aussi quand j'étais étudiant, eh bien, depuis ce temps-là, les choses ont été renversées. Parce que c'est vrai qu'il y avait de l'abus, mais où il n'y a pas d'abus. Est-ce que vous, on est tous pêcheurs, et puis on a un certain abus, là, on a entendu Moïse, hein, qui effectivement, on est dans le péché, on est dans le péché. Il y a quelques années, l'armée canadienne a demandé aux aumôniers chrétiens, au Canada, hein, c'est pas la France, vous ne devriez plus prier au nom de Jésus. C'est ce qu'on leur a demandé aux aumôniers. Vous ne devriez plus prononcer publiquement le nom de Jésus-Christ. C'est offensant pour les autres. Se contenter de dire Dieu, c'est acceptable. Les gens peuvent maintenant comprendre le mot Dieu à leur façon, comme il leur convient, selon le Dieu de leur imagination. Par contre, parler de Jésus-Christ devient trop spécifique, trop exclusif. On leur a interdit aux aumôniers chrétiens de l'armée. Vous voyez ? Jésus dit « Je suis la vérité ». Il ne dit pas « Je suis venu vous dire la vérité » ou « Je suis venu vous montrer où se trouve la vérité » ou « Vous apprendre la vérité ». Non, il dit « Je suis la vérité ». Jésus en lui-même, dans sa propre personne et dans son œuvre, celle qu'il a fait à la croix, révèle la vérité au sujet du Père. Vous avez l'évangile de Jean qui en est rempli, chapitre 14, chapitre 17. Chapitre 14, verset 7, il dit « Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » Voyez-vous, connaître Jésus, c'est connaître Dieu, le Père, parce que Jésus est celui qui est l'image du Père et qui représente et qui est Dieu, le Fils, qui est en lien avec son Père. Si nous voulons connaître le Père, Dieu le Père, que nous implorons dans le nom de Jésus, eh bien, il nous faut connaître le Fils. Il faut connaître Jésus. Et Jésus, il est décrit dans les évangiles. Il est décrit de manière très précise. Et c'est une révélation. Un peu comme le pardon, il faut recevoir la révélation de Jésus. Et j'espère que tout le monde ce matin a reçu cette révélation, sinon il faut s'approcher du Seigneur pour la recevoir. Alors qu'apprenons-nous sur le Père quand nous regardons à Jésus ? Nous apprenons que Dieu est une personne. Dieu n'est pas une force impersonnelle dans l'univers. Moi, j'étais catholique jusqu'à mes 20 ans et j'étais très très pratiquant. Je faisais tout un sermon de messe et tout. Et on m'avait expliqué que Dieu est extraordinaire et dans l'univers et tout ça. Et quand je l'ai rencontré, j'ai rencontré une personne à l'âge de 20 ans. C'est là que mes yeux sont ouverts sur la réalité d'un Dieu personnel. Donc Dieu n'est pas impersonnel, c'est pas que le Dieu de l'univers. Il est bien sûr le Dieu de l'univers qui a tout créé. Ce n'est pas une force simplement qui met l'univers en mouvement. Par des lois physiques. J'ai eu la chance de faire ce que j'aimais dans ma vie, travailler dans l'aéronautique, lancer des fusées, des satellites, etc. Et là, on a besoin de connaître les lois de l'univers. Sinon, vous réussissez à rien du tout. Il faut vraiment connaître ces lois-là que Dieu a créées pour pouvoir les utiliser à bon escient et mettre sur orbite correctement les choses, parce qu'il y a des milliards hein, en jeu. Des fois, je réparais à 36 000 km des satellites qui ne s'ouvraient pas, etc. Bon, on était en conférence, etc., pour faire tout ça. Mais il faut connaître les lois. Là-bas, il fait moins 273 degrés. Donc quand une charnière, vous voyez, quand une charnière bloque, bah, comment vous la débloquez ? À cette température-là, tout ce qui est mécanique et métallique est bloqué. Donc voilà, il y a des astuces, mais ce n'est pas facile. Or aujourd'hui, le monde est inondé de vérités où on explique que Dieu, on peut le rencontrer, mais c'est un tas de forces. Hein. Dans le yoga, dans toutes les sciences parallèles, et de plus en plus hein, de gens s'intéressent à ça, mais ce sont des forces, c'est pas un Dieu personnel. Il n'y a que dans la parole de Dieu, dans l'évangile, qu'on parle de Dieu personnel. La vérité, mes amis, ce n'est pas juste une équation scientifique. Dieu n'est pas uniquement une énergie cosmique qu'on peut capter comme ça et se l'approprier, qui se répand dans l'univers. Là, on touche à de l'occulte. On touche aux choses occultes. Et les gens ne se rendent pas compte qu'ils rentrent tout simplement dans l'occulte. Ils sont contre, mais en fait, ils le font en écoutant ce genre de choses et ce genre de pratiques. Hein. En même temps, la vérité qui est Jésus, elle est personnelle, elle est chaleureuse. On sent une chaleur quand vous rencontrez le Seigneur. Quand on rencontre le Seigneur, c'est une présence personnelle. Et Jésus-Christ, en même temps, nous révèle le Père, l'amour du Père. Moi, je me suis converti et un soir, j'ai entendu un message qui avait parlé que Dieu réconciliait. Et simplement ce mot réconciliation, ça m'a complètement, toute la nuit, ça m'a rempli ce mot, être réconcilié avec Dieu. Soyez réconciliés. L'apôtre Paul le disait. Un peu comme le pardon, c'est cette révélation de la réconciliation avec un Dieu qui nous aime. Jésus-Christ nous révèle le Père qui nous aime et qui nous attend. Et il nous fait voir que Dieu est non seulement amour, mais il est saint. Il n'y a pas de péché dans sa présence. C'est pour ça qu'on ne peut pas rentrer comme ça devant Dieu sans l'accès au travers de la croix, au travers de Jésus, qui a donné sa vie pour nous, parce qu'on amènerait notre saleté dans la présence de Dieu. Donc il faut un médiateur, il faut quelqu'un qui a pris nos péchés à notre place. Eh bien, Dieu est saint, Dieu est bon, Dieu est juste, Dieu est plein de grâce. Et il désire nous communiquer avec nous toutes ces valeurs qui sont dans sa présence. Or, l'Église doit continuer à prêcher fidèlement cette vérité, jusqu'au bout, objective, basée sur une réalité, la réalité de la croix, la réalité de Jésus qui est venu sur terre pour donner sa vie. Et n'est pas subjective. C'est pour ça qu'il faut se battre, et je fais des études avec quelques-uns d'entre vous sur le royaume, comment Dieu règne, le royaume de Dieu. Eh bien, cette théologie, elle a beaucoup souffert dans les années passées et toujours aujourd'hui. Hein, où on veut en faire quelque chose de subjectif, alors que c'est objectif. C'est historiquement, il y a 2000 ans, Jésus est mort à la croix, il est venu. Et ça, on veut le gommer. On veut le gommer, on s'attaque à cette historicité. Mais si on s'attaque à ça, et si on réussit, on n'a plus rien, non plus rien de réel. On n'a que des spéculations, des philosophies, des choses comme ça. Vous savez, la vérité, elle est vivante. La vérité est active. La vérité nous parle. La vérité, c'est Jésus. Elle nous saisit et nous remplit. Elle nous éblouit par la puissance de cette vérité sur tout, sur nous-mêmes. Nous sentons pécheurs quand cette vérité vient en nous. Et nous voyons en Jésus cette vérité qui est la lumière et qui nous éclaire, qui nous éblouit. Jésus dit, je suis la vérité, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Est-ce que vraiment on connaît Jésus? Moi je ne suis pas sûr dans nos églises évangéliques qu'on connaît vraiment Jésus, parce qu'il y en a beaucoup qui s'éloignent, qui cherchent d'autres sources, qui rentrent tout en état évangélique, ça devient une religion. Ça, c'est pas Jésus. Si on cherche autre chose que Jésus, que sa présence, eh bien, on dévie lentement vers une religion, et ça devient une religion. Vous savez, je suis étonné que l'Église catholique encore croit à la résurrection de Jésus après 2000 ans d'existence. Alors qu'il y a des évangéliques aujourd'hui, au bout de quelques dizaines d'années, ne croient plus vraiment à la puissance de Jésus. Les protestants, mes amis, au XIXe siècle, ils ont décrété que Jésus, c'était un mythe, il n'est pas vraiment ressuscité. Et c'est ce qui a poussé les catholiques à faire Vatican I. Le Concile Vatican I, en fin du XIXe siècle, ils l'ont fait à cause des protestants qui ne croyaient plus à la résurrection de Jésus. Vous imaginez, mes amis? Alors que Luther, il s'est retourné dans sa tombe, Calvin aussi, au bout de 200 ans. Non, mes amis, Jésus, il faut communier avec lui. Il faut développer une relation et la conserver intacte et renouvelée jour après jour. La vérité est mise à mal aujourd'hui. Le monde est tordu, vous le savez, mais du coup, il tord aussi les chrétiens. Il nous tord aussi parce que nous sommes dans le monde. Nous écoutons toutes sortes de choses qui nous influencent. Sur le plan moral et spirituel, nous vivons un monde où la lumière de la vérité est mêlée, elle est mêlée à l'obscurité de l'erreur. On tâtonne dans le crépuscule d'une incertitude, et on est dans l'incertitude, on ne sait plus, on met tout en cause. Notre monde occidental, en tout cas celui que je connais, est plongé dans une pénombre spirituelle. Et ce qui pose la question de Ponce Pilate, rappelez-vous, déjà Ponce Pilate, quand Jésus était devant lui, où on l'a amené pour le crucifier, Ponce Pilate a hésité, parce que sa femme a dit, attention, cet homme est juste, ne touche pas à lui. Vous savez, les femmes, souvent, elles ont des sixième sens, comme on dirait, bon, il a eu un songe, etc. Donc elle l'a prévenu. Et donc il était hésitant. Il n'osait pas. Et quand Jésus a dit, je suis la vérité, il a dit, mais qu'est-ce que la vérité? Et vous, il posait déjà la question il y a 2000 ans, sur cette fameuse question, mais qu'est-ce que la vérité? Tu oses dire que la vérité, mais c'est quoi cette prétention? Le monde n'a pas changé. C'est pas nos iPhones ou tous nos moyens qui changent quoi que ce soit du cœur humain. Le doute sur quelqu'un qui dit « je suis la vérité » comme Jésus, bien c'est pas possible. N'est vérité pour l'homme moderne que ce qui plaît à son cœur et qui satisfait ses propres intérêts. C'est ça la vérité pour l'homme moderne. Pour qu'une chose soit acceptée aujourd'hui, il ne faut plus nécessairement qu'elle soit vraie. Les gens, ils s'en fichent si c'est vrai, si c'est pas vrai. Mais est-ce que ça fait du bien? Et si c'est facile à accepter, alors là, on court pour l'accepter. Les publicités, ils ont bien compris comment accrocher des gens pour vendre leurs produits. Alors, d'où des phrases nébuleuses que vous avez tous entendues comme moi, toutes les religions sont bonnes pourvu qu'on y croit. Vous avez déjà entendu ça? Alors, toutes les religions sont bonnes pourvu qu'on y croit, voyez-vous? Ça fait vraiment la vérité, vous voyez. Ils sont bonnes pourvu qu'on y croit. Or, il n'y a qu'un seul Dieu, mes amis. Un seul Dieu qui a créé tout l'univers et qui a envoyé Jésus. Eh bien, la vérité n'est vérité que si elle sert mes intérêts, c'est l'homme moderne. Je vais vous citer trois passages, vous pourrez les lire chez vous. Dans Jean 18, versets 36 à 38, Jésus dit « Mon royaume n'est pas de ce monde. Je suis né et je suis venu dans ce monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma foi. » C'est là que Pilate lui répondit « Mais qu'est-ce que la vérité ? T'es bien prétentieux, toi. » Le deuxième passage, c'est Jean 14, où effectivement, verset 6, il dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie. » Et le troisième passage, très important, c'est Jean 17, verset 17, dans ce qui est appelé la prière sacerdotale, où Jésus s'adresse à son Père, il dit « Père, sanctifie-les par ta vérité, ta parole et la vérité. Donc vous voyez, là, il renvoie à la parole, le Logos, hein, qui est Jésus, qui est aussi la vérité. Donc il y a plusieurs facettes. La facette à la vérité, parce que Jésus a plusieurs facettes. Hein. C'est par lui que tout a été créé, dans le ciel et sur la terre. C'est fantastique que tous les chercheurs aujourd'hui qui cherchent dans la création, ils rencontrent Jésus. Ils rencontrent Jésus parce que quand on cherche, on rencontre Jésus. C'est lui qui était l'origine de toute création. Je pourrais dire que ça, c'est pas juste, mais que Ponce Pilate était franc-maçon. Pourquoi je peux dire ça? Parce que la franc-maçonnerie, aujourd'hui, j'ai entendu la radio qui font une porte ouverte tellement ils ont de candidats qui veulent rentrer dans la franc-maçonnerie. Aujourd'hui, vous voyez, ça devient très, 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 très couru. Donc, ils font une carrément une porte ouverte. Avant, on ne pouvait pas rentrer. C'était voilà, tabou. Parce que l'Église catholique l'avait interdit. Aux États-Unis, non. Ils ont, sur les frontons, quand j'ai passé le tour des États-Unis, vous avez les francs-maçons qui sont marqués franc-maçonnerie. Comme l'Église catholique, l'Église évangélique, c'est toléré. Chez nous, non. Mais aujourd'hui, ils font des portes ouvertes parce qu'ils ont énormément de candidats qui disent qu'ils veulent rentrer. Donc, ils ne peuvent même plus faire des initiations. Et tac, ils font carrément des portes ouvertes. Eh bien, c'est quoi la franc-maçonnerie? Eh bien, ils vous disent c'est des chercheurs de vérité. Dans leur philosophie, c'est-à-dire que dans leur association qu'ils ont déposée, dans l'article 1, vous expliquez à quoi sert votre association. Ils disent, on cherche la vérité. Il n'y a pas de mal à ça. Un chercheur de vérité. Hein. Sauf que, en fait, vous ne la trouverez jamais, et c'est même une gloire de ne pas la trouver, vous voyez. Ils se disent, mais de toute façon, vous ne la trouverez jamais, parce qu'il faut toute une vie, puis même à la fin, vous ne l'avez pas trouvée. Vous vous rendez compte, quelle espérance? Même l'objet de leur existence, ils vous promettent quelque chose que vous ne trouverez pas. Parce qu'ils disent, oh, ouais, la vérité, elle est progressive. Vous voyez, c'est incroyable que des gens soient vraiment accros à ce genre de propositions. Il y a les jeunes, à mon époque, hein, ils allaient à Katmandou, dans les ashrams, pour trouver la vérité, là où il y a 33 millions de dieux. Hein, ça a été compté dans ces pays-là. Il y a un engouement pour l'Orient, l'orientalisme, pour Bouddha. Et vous savez ce que Bouddha a dit? Eh bien, à la fin de sa vie, il a dit « Je cherche encore la vérité ». Lui aussi, il ne l'a pas trouvé. Ce qui veut bien dire qu'il ne l'était pas, la vérité. Et pourtant, il y a beaucoup de gens qui sont éblouis par le bouddhisme, qui veulent le suivre. Vous savez, la vérité n'est pas un héritage qui viendrait de nos parents, qui nous transmettrait la vérité, que nous posséderions un droit à la naissance pour la vérité. Certains disent « la vérité est en toi ». Oui, encore, c'est souvent dans les gens qui vous initient certaines choses, ils disent « la vérité est en toi et il faut la découvrir, elle est en toi ». La bonne blague, il faut faire un effort pour la trouver, c'est tout. Vous savez, ce n'est pas que nous apprenons ni de l'expérience, ni de la Bible. Ce que nous héritons de nos parents, c'est plutôt le contraire. C'est le roi David l'avait bien compris. Dans le psaume 51, voilà ce qu'il dit. « Ô Dieu, je reconnais mes transgressions. Mon péché est constamment devant moi. Si tu veux que la vérité soit au fond du cœur, mais voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. » C'est la confession du roi David. Vous savez, là où est le péché, là où est l'erreur. Et l'erreur n'engendre jamais la vérité, mes amis. Vous voyez, une citerne à purin, hein, eh bien, elle ne crachera jamais que du purin, malgré une cuve en acier inoxydable. Hein. Vous pouvez la mettre n'importe où, ce sera du purin qui va sortir. Et l'erreur, c'est pareil. S'il y a une erreur, elle augmentera l'erreur, mais elle ne deviendra jamais la vérité. Dans Romains chapitre 1er, versets 18 à 25, il dit que la colère de Dieu est révélée du ciel contre toute impiété. Des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Et c'est très grave, c'est une profanation si on retient le message de Jésus. C'est pour ça que l'ennemi fait tout pour empêcher les églises d'évangéliser. Il fera tout. Parce que si vous évangélisez, eh bien vous apportez Jésus. Alors, vous croyez ça? Eh bien moi, je peux vous dire que l'ennemi fait tout pour nous empêcher d'évangéliser. Mais grâce à vous qui êtes là, je compte sur vous et sur tous ceux que le Seigneur va envoyer, eh bien nous allons évangéliser. Vous avez à cœur d'évangéliser? Vous avez à cœur d'évangéliser? Pour très peu de gens. Mais vous êtes honnête, c'est bien. Mais on va prier pour que le désir vienne. Parce que l'évangélisation, c'est la vie, mes amis. C'est la vie. C'est la vie. Si une église n'évangélise pas, elle est morte. Elle est morte. Elle ne sert à rien. Il vaut mieux aller dans un club de bowling, dans un club, je ne sais pas, où vous faites plaisir. Mais ça ne sert à rien de venir à l'église. Ça sert à quoi de venir à l'église si on n'évangélise pas? Ça ne sert à rien, mes amis. Je peux vous le dire, vraiment de tout mon cœur, ça ne sert à rien. Et l'ennemi fait tout pour nous endormir, pour qu'on n'évangélise pas. Pour que, effectivement, c'est simplement dire « Jésus t'aime ». Et rien qu'un mot comme ça peut bouleverser toute une vie. Mais si on n'y croit pas, si on croit qu'il faut démontrer, il faut ceci, il faut cela, bien sûr, on ne le fait pas. Mes amis, il faut que le Seigneur nous réveille pour qu'on se remette à évangéliser, à apporter la bonne nouvelle de l'Évangile, sinon on n'est pas une église. Il faut faire taire notre conscience lorsqu'elle proteste contre une atteinte à ce que nous savions être la vérité. C'est-à-dire que notre conscience, elle est marquée par tout ce qui nous entoure et on a du mal à nous défaire de ça, parce que nous sommes humains. Et l'apôtre Paul aux Romains dit « Nous avons honoré la créature, en l'occurrence nous-mêmes, et donc l'humanisme athée. » J'ai entendu une partie, il faut que je la réécoute, Georgina Dufoy qui a donné un témoignage à l'église de Peter Schmidt à Mulhouse. Vous savez qu'elle était ministre, elle a appris ça d'ailleurs à la télé qu'elle était ministre, il n'y a même pas eu un coup de fil pour lui dire qu'elle est ministre, c'est assez étonnant comme façon de déclarer les gens ministres. Donc elle était ministre, voilà, elle dit que... Et après, elle a travaillé à l'Organisation des Nations Unies, après être ministre. Et elle dit, c'est incroyable, c'est complètement humaniste. L'Organisation des Nations Unies. Alors humaniste, on entend bien, hein, c'est croire que c'est l'homme, hein, qui est Dieu. Hein, c'est vraiment, l'humanisme, c'est ça, hein, c'est pas aimer les gens, hein, ça c'est très bien. Dieu, Jésus aussi était humaniste dans ce sens-là. Non, c'est l'humanisme athée. C'est-à-dire de croire qu'il n'y a que l'homme qui peut s'en sortir et qui doit trouver des solutions, etc. Vous savez, un jour, il y a un pasteur qu'on a connu dans les CCY, je ne sais plus comment il s'appelle, peut-être Marie-France se rappelle, je ne l'ai plus en tête. Et il a dit qu'un jour, il est allé à l'ONU et il était curieux, il a demandé au gardien qu'on lui ouvre la porte où il y a une salle de prière. Il y a une salle de prière, hein, pour tout le monde, tous les gens qui sont là, au centre de l'édifice. Il a dit non, c'est impossible. Je n'ai pas le droit de vous ouvrir. Alors bon, on lui a donné une pièce, enfin, il a fait quelque chose pour dire non, mais je vais juste regarder. Vous ouvrez, vous regardez. Parce qu'il voulait savoir. Parce que vous savez, si c'est secret, il y a des tas de gens qui racontent des choses, vous ne savez pas. Et en fait, il lui a ouvert, il a regardé, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait des chaises comme ça autour, hein, pour prier, parce que tout le monde peut rentrer. Bouddhistes, musulmans, chrétiens, enfin voilà, c'est une salle de prière, mais une prière, voilà. Et en fait, au centre, il y avait une pierre noire. Une pierre noire. Hein. Comme à la Kaaba, musulman, ça ne veut pas dire que c'est musulman. Mais, vous savez, la pierre noire, voilà, c'est informe. C'est un météorite qui est tombé, voilà, c'est Dieu. C'est, vous voyez, c'est humaniste, c'est complètement humaniste. C'est que ça renvoie à vous-même. À vous qui êtes Dieu. Quoi. Oui. Non, mes amis, aujourd'hui, le monde est parti de travers. Mais les gens croient des choses. Vous voyez, par exemple, on est plus favorable à des croyances qu'à connaître Jésus, à rencontrer Jésus. Je vais vous donner juste quelques exemples des gens de ce qu'on peut croire. Hein. Et pas qu'en Afrique, hein, en Europe du Nord. Voilà, j'ai pris quelques exemples. En Europe du Nord, les gens sont arrivés à croire dans le domaine médical, grâce aux lumières que nous possédons maintenant. Vous avez peut-être rigolé, mais n'empêche que voilà, c'est ce qu'on a, il y a quelques années, encore cru, et certainement encore dans la culture. Hein. On guérissait un catarrhe, pardon, c'est une inflammation des muqueuses, en s'enroulant des chaussettes chaudes et humides autour du cou. Un médecin guérissait un mal semblable en donnant à un patient une poudre avalée. Le lendemain, la douleur était descendue de la gorge dans l'estomac. La poudre était faite de baies, de grenouilles desséchées, de vieux disques, de gramophones moulus ensemble. Et les gens acceptent ça. En Afrique de l'Est, les gens croyaient que le choléra était enfermé dans les volcans et relâché lors des éruptions. Refusant tout traitement médical et se tenant sur le seuil de leur maison, ils faisaient feu de toutes les armes et tiraient des flèches pour effrayer le volcan. Dans certaines régions de Grande-Bretagne, on croyait qu'une grenouille tenue dans la bouche était un bon remède contre les ulcères. Une tête de poisson vivant tenue dans la bouche et puis remis à l'eau guérissait de la coqueluche. Et le fait de toucher un mort faisait passer la maladie du vivant dans le mort. Nos ancêtres traitaient l'asthme avec des poumons de renard séchés et pilés dans du sang de hibou. 30 escargots et 30 vers coupés et broyés, le tout mélangé à du lait et de l'eau de source, guérissaient de la tuberculose. Il y avait des remèdes universels, et un philosophe grec, donc c'est avant Jésus-Christ, avait la foi dans l'application externe des feuilles de chou pour toute indisposition. Et un autre praticien, il y a 2000 ans, avait élaboré un remède de 62 ingrédients qui étaient supposés tout guérir et qui ne guérissaient rien. Ah oui, les gens, c'est les cultures. Ils croient à des choses et vous dites, Jésus est la vérité, ils ne le croient pas. Vous savez, Satan, il est aussi appelé Lucifer, c'est-à-dire il est de face. Satan, c'est celui qui est l'ennemi, hein, qui est opposé à Dieu, et Lucifer, celui qui amène la lumière. Hein, celui qui est, voilà, il a les deux versants pour la même personne. Et dans 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 14, il est dit que Satan se déguise en ange de lumière. Il est maître dans l'art du camouflage. Et ses erreurs, il les fait passer pour des vérités. Ceux qui ont ajouté foi à ces remèdes, hein, de bonne femme, je dirais, eh bien, se sont effleurés, n'ont pas eu de doute, puisqu'ils l'ont avalé, ils l'ont pris. Et en plus, sinon, ça ne marcherait pas. Il n'y a pas longtemps, avec Michel, on était dans des grands rassemblements aux États-Unis, où toute la planète y va, c'est là où il faut aller. Et la première réunion qu'on avait eue pour ces étudiants, on a dit: il faut que vous laissiez votre pensée, votre raisonnement de côté, sinon ça ne marchera pas. Donc il fallait avaler tout ce qu'on vous enseigne comme ça. Avec Michel, on s'est regardé, on a dit, mais où est-ce qu'on est là, hein? Voilà, vous voyez, si vous enlevez tout votre raisonnement, eh bien effectivement ça marche, parce que vous ne cherchez pas, hein, l'erreur, vous l'avalez. Dans 1 Timothée chapitre 4, verset 7, vous avez ce passage où l'apôtre parle de ces contes de vieilles femmes, de bonnes femmes, qu'il faut repousser. Alors, j'ai abordé trois choses. C'est comment distinguer le vrai du faux. Ça, c'est pas facile. Alors, d'abord, les miracles. Les miracles. Quelle est l'origine des miracles? Certains affirment que les miracles sont, pour eux, le seul critère de vérité. Si un miracle, c'est la vérité. Sommes-nous sûrs de ça? Car la vérité se découvre dans les miracles, mais la question, c'est qui est-ce qui fait les miracles? Cela peut choquer quelqu'un, mais il faut voir les choses en face. La Bible nous parle des miracles opérés par celui qui se déguise en ange de lumière. Donc Lucifer est capable de faire aussi des miracles. Rappelez-vous dans l'Exode, dans le livre de l'Exode. Moïse se présenta devant le Pharaon
avec la mission de faire sortir le peuple d'Égypte. Rien que ça.
Des griffes du Pharaon. Et Moïse pensait convaincre le Pharaon en lui faisant des miracles qui devaient authentifier sa mission, qu'il est là par Dieu. C'était indiscutable. Et il avait son bâton et il le lance par terre. Et qu'est-ce qu'il est devenu ? Un serpent. C'est un miracle. Imperturbable, le pharaon, il appelle ses magiciens, ses enchanteurs, ses sorciers, et dit « Faites la même chose ». Et ils ont fait la même chose. Ils ont pris leur bâton et ils le jetèrent par terre, qui devinrent des serpents. Voyez-vous, le miracle, ce n'est pas une preuve que c'est Dieu. Il faut répondre honnêtement à ces questions. D'où venait le miracle de Moïse ? De Dieu. Et d'où venait le miracle des magiciens ? Allô ? Ah, de l'autre. Vous savez, un jour, l'ennemi essaie de tous nous coincer, hein, par tous les moyens. Jules Thauvois, vous l'avez connu, Jules Thauvois. Ouais. Il a fait quelques alliances. Maintenant, je sais qu'il n'était pas bonne pour lui et pour l'Église du point du jour, qui d'ailleurs aujourd'hui est très très mal en point. Et en fait, il y a des personnes qui ont dit « Tu sais, tu devrais aller sur le plateau de télé. » C'est sûr, hein, plateau de télé, avec tel, etc. Donc, ils ont préparé ça à l'époque, il y avait Françoise Bourgogne, tout ça, voilà. Et il était sur le plateau de télé. Tout était prévu, sauf une question que le présentateur avait prévu et qui n'était pas prévu dans la préparation. Sinon, Jules Thauvois aurait refusé. Vous voyez, l'ennemi nous coince toujours. Voilà. Et en fait, la question, c'était quoi ? Monsieur Thauvois, à Lourdes, vous pensez de qui viennent les miracles ? Parce qu'il savait quelle était sa réponse et il voulait que la France entière l'entende. Vous voyez ? Comme quoi, il est malin. Il est malin. Si je le disais, mais ça vient de Satan. Vous imaginez ? Tous les catholiques qui entendent ça. Ah oui, il était piégé. Alors, je ne sais plus à l'époque comment il s'en est sorti. Enfin, bon, c'est un piège. Hein, on ne peut pas dire la vérité vraiment comme ça. Parce qu'en fait, les gens qui sont choqués. En plus, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Hein, parce qu'à Lourdes, il y en a... Bon, je peux aller à Lourdes et je peux être guéri dans la foi. Hein, je veux dire, c'est pas le lieu en particulier. Mais bon, on ne va pas rentrer là-dedans. Mais juste pour montrer comment l'ennemi arrive à coincer des serviteurs de Dieu. Simplement parce que, en fait, il cherche toujours à nous coincer. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 9 et 10... Il est dit que l'apparition de l'Antéchrist, alors il y a plusieurs Antéchrists hein, dans l'histoire, mais il y en a un à la fin qui va clôturer tout ça. Il dit que ça se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, avec toutes les séductions de l'iniquité, pour que tous ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés, tous ceux qui n'ont pas cru la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Voyez-vous, le Seigneur, eux, ils sont piégés, parce que quand on ne croit pas à la vérité, eh bien, on croit au mensonge, et on ne peut plus en sortir. Et ça, c'est très grave. C'est pour ça que la Bible dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Et c'est pour ça, tout à l'heure, j'ai demandé à Moïse de prier pour ceux qui ont pardon, parce que peut-être aujourd'hui, si vous ne l'aviez pas fait, vous risquiez de ne plus saisir ce pardon. Vous voyez, il faut toujours être prompt à obéir. Il faut toujours être prompt à obéir. Quand le Seigneur dit quelque chose, obéissez, mes amis. Parce que c'est une bénédiction qui est à l'appui. Premièrement, les miracles. Deuxièmement, les émotions qui sont trompeurs. Il y a des gens qui croient que la vérité se trouve dans l'intensité des émotions, ce que je ressens. Ils disent quelque chose se soulève en moi, on est rempli d'émotions. Ah, dans telle réunion, c'était formidable, j'étais pris par les larmes, etc.
puis il y aura des larmes du Seigneur, mais aussi une émotion toute pure. Dans Ézéchiel, chapitre 8, verset 14, nous lisons ceci. « Dieu me conduisit à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel, et voici qu'il y avait là des femmes assises qui pleuraient Tammuz. Et il me dit, tu verras encore d'autres abominations plus grandes que celles-là. » Tammuz, à l'époque d'Ézéchiel, hein, c'était l'équivalent d'Osiris, Adonis, enfin tous ces dieux qui imitaient Jésus, c'est-à-dire qui sont renaissants, qui meurent et qui renaissent. Hein, Osiris, c'est dans toutes les cultures, ça existe, cette renaissance qu'ils appellent une résurrection, qui n'est pas une résurrection, c'est simplement un mythe. Hein. Mais ils y croient. Eh bien, ce Tammuz était une divinité phénicienne, comme les Adonis chez les Grecs, et la vénération de ces femmes et leur amour pour qu'elles croient être la vérité était qu'elles atteignaient une extase mystique qui les faisait pleurer. Et d'ailleurs, on a utilisé les femmes comme ça en Grèce, on appelait les Pythies, hein, les Pythies. Étonnant, parce qu'un jour, j'ai visité la cathédrale de Hoche, là où est Jean-Marc Potenti, là, et puis je regarde, et d'un seul coup, je vois il y en avait 12 des grands vitraux de 12 mètres de haut, c'est marqué, c'est les Pythies. Je dis, quoi, les Pythies? L'église catholique? Bah oui, les Pythies, qui donnaient des oracles, et ils expliquaient l'évangile. Je dis, attends, mélange entre les Pythies, voilà, qui sont celles qui donnait les oracles, et oui, parce que jusqu'à la réforme protestante, il y avait les Pythies dans les églises qui présentaient, il y avait un syncrétisme, dans le catholicisme, c'est bien connu. Et ça donne des extases, et donc des oracles, des pronostics, des prophéties, des choses comme ça. Les amis, les sentiments, c'est pas ça qui vous amène à la vérité. Ensuite, les expériences. Les expériences ne suffisent pas pour établir la vérité, mes amis. D'autres croient que la vérité réside dans les choses qu'ils ont eux-mêmes expérimentées. C'est vrai qu'une rencontre, on l'expérimente. Mais toute expérience n'est pas un critère de vérité. Dans le livre de Jérémie, les prophètes, on découvre au chapitre 44 que l'expérience la plus probante peut être en contradiction avec la vérité. Au verset 15, on lit ceci, « Tous les hommes qui savaient que leur femme offrait de l'encens à d'autres dieux, et toutes les femmes qui se trouvaient là en grand nombre, répondirent à Jérémie. Nous ne t'obéirons, donc Jérémie c'était le prophète, hein, qui les mettait en garde. Il a dit, nous t'obéirons en rien de ce que tu nous as dit au nom de l'Éternel. Nous voulons agir comme l'a déclaré notre bouche, offrir de l'encens à la reine du ciel et lui faire des libations, c'est-à-dire, ils versaient du vin, etc., des libations, en son honneur, quoi. Comme l'ont fait nos pères, nos rois et nos chefs. Vous voyez, les maris ont montré l'exemple. Alors, nous avions du pain pour nous rassasier. Alors, nous étions heureux et nous n'éprouvions pas le malheur. Et depuis que nous avons cessé d'offrir de l'encens à la reine du ciel et lui faire des libations, nous avons manqué de tout. Et nous avons été consumés par l'épée et par la famine. Vous vous rendez compte? L'expérience de dire, quand on vénérait la reine du ciel, on avait tout, et puis maintenant, toi, tu nous dis d'abandonner ça et poursuivre l'éternel. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Et donc, l'expérience de cette erreur, hein, parce que certainement, ils exagéraient, mais Dieu aussi nous fait parfois passer par des épreuves pour le rencontrer, pour que nous puissions nous purifier. Voilà. Mais tout ça, c'est confondu avec l'expérience. On a quelque chose dans l'Église qui, pour moi, est très très important. C'est ce qu'on appelle le quadrilatère wesleyen. Wesley, il est là sur le panneau, là. C'est un réformateur anglais. Moi, je suis très très impressionné par lui, parce qu'il a commencé un réveil qui a duré, assez, tenez-vous bien, 100 ans. 100 ans. Souvent les réveils durent 3 ans, des fois même quelques mois. Enfin, 100 ans en réveil, mes amis, ça veut dire que c'est un homme de Dieu. Et qui était fidèle jusqu'à sa mort pour maintenir en réveil spirituel. D'ailleurs, les historiens à la Sorbonne, hein, ma femme a fait les études à la Sorbonne, il disait, c'est grâce à lui qu'il n'y a pas une révolution sanglante en Angleterre comme il y en a une en France. C'est grâce à lui. Parce qu'il a évangélisé dans les mines, dans les gens les plus pauvres de son époque et qui se sont convertis. Et quand ils se convertissaient, ils juraient comme des charretiers, hein, dans le fond des mines. Ben, les chevaux, ils ont dû les remplacer parce qu'ils ne comprenaient plus leur maître. Quand ils redescendaient dans les mines, ils étaient convertis. Vous voyez, tellement c'était radical, cette transformation par l'évangile dans un réveil. Eh bien, il a appris une chose, et je vais terminer là-dessus. Il a dit, l'essentiel de la foi, donc la foi en Jésus-Christ, la foi dans la parole de Dieu, c'est donc adhérer à la vérité, hein. Elle est révélée dans les Écritures. Donc, dans les Écritures, la foi est révélée. Éclairée par la tradition, donc nos pères qui nous transmettent certaines choses, il faut les écouter parce qu'ils ont engrangé un certain nombre de connaissances eux-mêmes qui nous ont transmis et qui nous transmettent. Vivifiée par l'expérience, vous voyez, l'expérience, elle n'est pas mauvaise, il faut expérimenter une relation avec Dieu. D'expérience, et confirmé par la raison. Il disait, mais Dieu vous a donné une raison, une intelligence, mais c'est pour s'en servir, c'est pour la mettre au placard. Et de plus en plus, dans les milieux charismatiques, entre autres, on met la raison de côté, sous prétexte que c'est l'expérience qui va vous donner la vérité. Non, mes amis. Non. Dieu nous a donné une raison, c'est pour s'en servir. C'est pour confirmer la parole. Moi, j'aime beaucoup ce livre, Dieu, la science, les preuves, où la science démontre que Dieu existe. Et tous ceux qui sont honnêtes, c'est-à-dire qui se laissent convaincre, ils savent qu'au travers de tout ce qu'ils découvrent, ils découvrent Dieu. C'est impossible que toute la création qu'on découvre, de plus en plus, hein, on a des galaxies maintenant qui font des milliards et des milliards d'années-lumière, qu'on peut voir, eh bien, c'est impossible qu'il n'y ait pas de Dieu. Donc on démontre que Dieu existe. Et ça, ce sera retenu au jugement dernier, contre tous ceux qui veulent refuser de rencontrer Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, il nous conduit au Père, il nous conduit à Dieu. Et le Seigneur veut que nous puissions, eh bien, nous tenir devant lui, pour que nous puissions le connaître tel qu'il est. Seigneur, nous te remercions parce que tu es la vérité. Tu es la vérité qui nous conduit au Père, qui nous conduit à la connaissance de Dieu par le Saint-Esprit. Seigneur, ces trois personnes qui forment ce Dieu Jéhovah, ce Dieu Yahvé, ce Dieu, celui qui est et qui est pour toujours, Seigneur, qui ne change pas, eh bien, ce Dieu... Eh bien, c'est au travers de Jésus que nous pouvons le connaître. Nous te remercions de ce que tu nous donnes de pouvoir le rencontrer encore aujourd'hui. Permets que dans cet auditoire, s'il y a quelqu'un qui ne l'a pas fait, il puisse te rencontrer. Et que nos enfants, nos petits-enfants, tous ceux qui sont dans notre maisonnée, ils puissent te rencontrer. Seigneur, afin qu'ils connaissent la vie et que, Seigneur, ils puissent connaître le Père d'amour, le Père qui a créé toutes choses et qui veut nous faire du bien. Seigneur, sois béni dans le nom de Jésus. Amen.